Canal Académie. L'entretien de la semaine. Rencontre avec un académicien.
Rendre le monde meilleur, telle était l'ambition des pionniers de l'Internet des années 80. Une utopie numérique portée par quelques hippies descendants du Summer of Love californien. Mais 40 ans plus tard, que reste-t-il vraiment de cet idéal? La vague capitaliste de la nouvelle Silicon Valley aurait-elle tout emporté sur son passage? Il reste quelques poches de liberté résistant à la marchandisation et à la privatisation du numérique. Le succès de Wikipédia, des logiciels libres ou encore de la science ouverte le prouve. Des communs numériques qui nous sont indispensables pour faire face aux défis écologiques, sanitaires ou encore démographiques de demain. C'est la thèse de Serge Habitboul et François Bansilon, tous les deux auteurs d'un véritable plaidoyer pour les communs numériques. Ils publient « Vive les communs numériques » aux éditions Odile Jacob. Et pour en parler, nous avons la chance de recevoir Serge Habitboul au micro de Canal Académie. Serge Habitboul, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur en informatique à l'INRIA, membre de l'Académie des sciences, et vous vous intéressez de près à la notion de commun numérique. Une notion qui ne parle peut-être pas forcément à tout le monde, et pourtant nous les utilisons tous les jours pour certains. L'encyclopédie en ligne Wikipédia, le navigateur Firefox, OpenStreetMap ou encore le système d'exploitation Linux. Quel est le dénominateur commun à toutes ces ressources?
Alors, il faut remonter un peu dans l'histoire. La notion de commun, alors aujourd'hui on parle de commun numérique, mais la notion de commun est une notion bien plus ancienne. D'ailleurs, d'une certaine façon, la notion de commun préexister à la propriété privée. C'est-à-dire que dans le temps, il y avait quoi? Il y avait des forêts où on allait chercher du bois, il y avait des endroits où on pouvait faire paître ses troupeaux. C'était des communs, ça appartenait à personne. Et puis petit à petit, on a vu cette notion de commun s'articuler un peu plus, des endroits où on avait le droit d'aller chercher du bois, des endroits où on avait le droit de faire paître ses animaux, en contradiction peut-être avec les parties de plus en plus privatisées, qui étaient ces terres. Donc on a parlé d'enclosure, c'est-à-dire les gens qui fermaient les terres pour pouvoir dire bah, « ça c'est à moi et vous n'avez pas le droit de venir sur mon terrain ». Donc on a vu la propriété privée se développer. Il y a eu des combats assez homériques entre les gens qui voulaient faire paître leurs troupeaux. On voit ça dans les westerns, hein, Lucky Luke dans la prairie par exemple. Donc on voyait ça et il y avait en même temps des gens qui de plus en plus développaient la propriété privée. Et donc, si vous voulez en schématiser un peu, vous avez d'un côté la propriété privée, on sait très bien ce que c'est à moi, c'est mon usine, c'est mon terrain, c'est ma voiture. Vous avez la propriété publique, c'est à l'État, c'est l'armée, c'est un hôpital public. Et puis entre les deux, il y a une zone un peu grise, une zone qui est ni publique ni privée, mais qui est ce qui est d'une certaine façon ouvert à tout le monde. Alors, dans le numérique, cette notion de commun qui avait tendance un peu à disparaître sous la poussée du privé d'un côté, du public de l'autre, les communs se rétrécissaient. Et avec le numérique, les communs ont retrouvé une nouvelle vie parce que justement, on s'est aperçu que cette notion de commun, qui n'était ni privé ni public, donc, collait vachement bien avec la notion de numérique parce qu'il y avait cette notion de « on peut plus facilement organiser des grandes communautés avec le numérique ». Avec cette notion aussi que c'était bien non-rivaux, c'est-à-dire que vous écrivez un logiciel, vous prenez une pomme. Une fois que j'ai mangé la pomme, il n'y a plus de pomme. S'il y a des poissons, c'est pareil. Par contre, un logiciel, j'écris un logiciel libre, eh ben, il y a 100 000 personnes qui peuvent l'utiliser. Et si ça ne suffit pas, il y a 1 million de personnes qui peuvent l'utiliser. Et c'est pareil avec Wikipédia. Donc voilà, c'est cette nouvelle vie des communs numériques. Alors, j'aurais dû citer Elinor Ostrom, qui est véritablement la vedette de ce domaine-là. C'est une personne qui a eu le prix Nobel d'économie pour ça, bien qu'elle ne soit pas économiste, qu'elle ne fût pas économiste à l'époque, pour avoir justement bien étudié et articulé cette notion de commun, qui encore une fois était bien plus ancienne qu'Elinor Ostrom, mais qu'elle a vraiment mis en évidence.
Elle n'a pas seulement travaillé sur la notion de commun numérique, elle a travaillé sur les communs de façon générale et a beaucoup apporté à cette notion-là, et notamment autour de la question de la gouvernance des communs. Qu'est-ce qu'on lui doit exactement?
Alors, elle a travaillé aussi, même à la fin, sur les communs numériques.
Elle a travaillé aussi.
Massivement sur les communs matériaux. Oui. Donc là, peut-être que maintenant, il faut s'arrêter une seconde pour dire, mais c'est quoi un commun numérique? Ou c'est quoi un commun? Mais de manière générale, je vais un peu simplifié, mais comme on l'a fait dans le livre, C'est trois choses. Premièrement, c'est une ressource. C'est quelque chose qu'on va partager. Donc, il faut une communauté. C'est une ressource, une communauté. Et ensuite, il faut une gouvernance. Et c'est les trois. C'est ce triangle-là qui forme la notion de commun, c'est-à-dire une ressource. Par exemple, je vais prendre un commun que j'adore, qui est le réseau Internet. Ce réseau, il est commun à tout le monde. Donc, il y a la communauté des gens qui utilisent ce réseau. Il y a aussi la communauté des gens qui développent ce réseau. Et puis, enfin, il y a une gouvernance, c'est-à-dire que pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait des protocoles, il faut qu'il y ait des règles que l'on mette en place pour défendre cette ressource, pour éviter que les gens fassent des enclosures comme ils l'ont fait sur les terrains et viennent se l'approprier.
Les communs sont des ressources portées par une philosophie profondément humaniste, en théorie, qui repose sur des notions de partage, de communauté, d'entraide. Qui sont les personnes, les idéologues, si je puis dire, ou les pionniers qui sont à l'origine de ce mouvement ?
Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et on va bien voir ça autour des logiciels libres. Dans les logiciels libres, c'est Stallman qui est la figure tutélaire, Richard Stallman, qui est un Américain qui a vraiment articulé la notion de logiciel libre, qui a écrit les premiers, qui a écrit beaucoup de logiciels libres lui-même, qui a écrit les premières licences, qui a développé les premières licences de logiciels libres. Mais quand on regarde ça, on s'aperçoit qu'il y a une notion qui est très, très proche, c'est les logiciels open source, à code ouvert. Et là, on se dit, mais attends, c'est quoi vraiment la différence entre les deux ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que Stallman est arrivé avec tout ce que vous avez dit, le partage, l'humanisme, le fait qu'il faut pouvoir collectivement développer du logiciel et l'utiliser. Et les entreprises ont eu du mal. Les entreprises, une entreprise, c'est fait pour gagner de l'argent, c'est fait pour avoir des clients, etc. Les entreprises ont regardé ça. Stallman, par exemple, certains PDG l'ont traité de communiste, ce qui est aux États-Unis la pire des insultes, hein, d'accord ? C'était vraiment quelqu'un qui voulait tout détruire, pas du tout. Par contre, cette idée d'ouvrir le code, qui est quasiment la même idée, hein, ils ont bien accepté. C'est-à-dire de dire, bah, écoutez, si vous voulez faire du logiciel de façon intelligente, il faut ouvrir le code. Pourquoi ? Parce que si vous ouvrez votre code, si vous montrez à tout le monde comment on peut utiliser ce code, bah, d'abord, les gens vont l'utiliser beaucoup plus, donc ça peut vous créer du business. Ensuite, les gens vont collectivement l'améliorer, vont écrire d'autres logiciels qui vont s'articuler avec le vôtre, qui vont s'interopérer avec le vôtre. Et donc, ça va être beaucoup plus efficace. Et donc, on arrive à cette notion de logiciel partagé, soit pour des raisons très humanistes, et on appelle ça du logiciel libre, soit pour des raisons de performance, d'efficacité, et on appelle ça du logiciel open source. Quand vous regardez les licences d'un peu loin, c'est à peu près les mêmes. C'est pas une grande différence. Il y a des différence, mais c'est quand même très, très minime. Et ces gens qui traitaient, qui de tous les noms, Stallman, ben aujourd'hui, ce sont des grandes entreprises qui, aujourd'hui, font énormément pour le logiciel open source. Il ne faudrait surtout pas leur dire que c'est du logiciel libre. Dans ma bouche, c'est presque la même chose. Et c'est ça qui est absolument génial dans cette notion. On voit très bien ça dans les logiciels. C'est qu'on peut arriver à peu près la même chose, soit si on regarde ça d'un point de vue comment on fait pour s'entraider, pour partager, pour être plus humain, ou quand on regarde ça, comment on fait pour être plus efficace, pour être plus performant. Et les communs numériques ont vraiment ces deux aspects. C'est à la fois quelque chose qui peut être d'une certaine façon défendu pour des raisons purement humanistes, mais c'est aussi quelque chose qui peut être défendu pour des raisons complètement de performance et d'efficacité.
Mais tout de même, définir un commun numérique précisément n'est pas une chose forcément très facile. Alors je vous propose d'expliquer par l'exemple, à travers un petit quiz rapide. Je vais vous lister plusieurs ressources et vous me direz si on peut les classer dans la catégorie des communs et sinon, pourquoi. Je commence avec peut-être le plus facile, Wikipédia. C'est un commun ?
C'est le prototype parfait du commun numérique.
Instagram.
Alors là, c'est le prototype parfait de ce qui n'est pas un commun numérique. C'est
pourquoi
une entreprise privée. Alors, d'une certaine façon, tout le monde y a accès, tout le monde peut utiliser Instagram, donc ça pourrait sembler quelque chose qui ressemble un peu à un commun, puisque c'est la propriété de tous les gens, tout le monde peut aller dessus, tout le monde peut échanger dessus. Mais il y a une question très clé, c'est la gouvernance. La gouvernance d'Instagram n'est pas faite au service des utilisateurs d'Instagram et par les utilisateurs d'Instagram, la gouvernance est faite par conseil d'administration qui essaie de maximiser les produits d'une entreprise, en l'occurrence Meta, et donc ça n'a rien à voir avec un commun.
Google Maps.
Alors, Google Maps, c'est un petit peu pareil. Ça peut être mis au service de la collectivité. On peut développer des choses avec Google Maps, mais d'un autre côté, c'est contrôlé par une entreprise privée. Alors, vos exemples sont particulièrement intéressants parce que d'une certaine façon, là encore, on peut dire, bon, on s'en fout un peu de la différence à partir du moment où c'est collectif et que les gens peuvent l'utiliser, ça ressemble quand même beaucoup à un commun. C'est comme le Canada Dry, quoi. Oui, mais c'est une différence. Par contre, ce qui est intéressant, ce n'est pas tellement d'être un commun, de mettre un label, vous êtes ou pas un commun, c'est comment vous évoluez. Si on met cette application, ce service, de plus en plus au service des utilisateurs, si par exemple des lois comme le DMA en ce moment en Europe, ou comme le DSA en Europe, petit à petit obligent ces entreprises à plus de transparence, obligent ces entreprises à non pas purement et simplement travailler pour augmenter leurs profits, mais aussi pour se mettre au service de la collectivité, on est en train d'aller vers des communs. On est encore très loin.
On est encore très loin. OpenStreetMap, qui est une alternative à Google Maps, est un commun. Voilà. Mais pourtant, les deux applications proposent le même service et pourtant, l'un est un commun et l'autre ne l'est pas.
Vous avez complètement raison. Ça semble être la même chose, mais il y en a un qui est au service de sa collectivité et qui est gouverné par sa collectivité, c'est OpenStreetMap, commun, parfait. Et l'autre qui, je suis désolé, est au service de Google et qui, d'une certaine façon, dont les règles du jeu sont définies par un conseil d'administration suite Google.
Donc là, on a cité quelques communs. Wikipédia, OpenStreetMap, ce sont des services gratuits. Est-ce qu'un commun est toujours gratuit ?
Pas du tout. Alors, d'ailleurs, on essayait d'éviter ça dans le livre, de se mettre un peu en censeur en disant « ça, c'est des communs, ça, c'est bien, ça, c'est pas des communs, c'est pas bien ». D'une certaine façon, on s'en fout un peu. Ce qui est intéressant, c'est l'état d'esprit, etc. Alors, pour nous, un commun n'a pas besoin d'être forcément gratuit parce qu'il faut qu'il fonctionne. Et d'une certaine façon, comment il fonctionne ? Il faut de l'argent pour le faire fonctionner. Il faut un minimum. Wikipédia, par exemple, il est gratuit, d'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui font des donations. Si Wikipédia, demain matin, décidait d'être payant, moi, ça ne me choquerait pas. Je veux dire, plutôt que de faire qu'il y a une personne sur 1000 qui donne de l'argent, si on demandait à chacun un euro, ça, je ne trouverais pas ça forcément choquant. Donc, le fait d'être payant ou pas n'est pas pour moi un critère.
Un critère défini. Vous avez parlé à l'instant de Wikipédia. Je voulais m'arrêter un instant sur la gouvernance de Wikipédia. Vous citez un chiffre assez... conséquent, vous dites que plus de 100 000 contributeurs par jour rajoutent, modifient des articles sur cette plateforme. Ce sont des citoyens comme vous et moi qui collaborent à cette plateforme. C'est une gouvernance horizontale qui régit la plateforme Wikipédia.
C'est devenu quelque chose d'assez important. Vous avez une grosse collectivité, pratiquement tout le monde est utilisateur de Wikipédia. Donc vous avez un nombre d'utilisateurs qui est gigantesque. Donc ces gens-là, ils posent des requêtes en permanence, il faut pouvoir répondre à leurs requêtes, il faut qu'il y ait des ordinateurs pour faire ça, etc. Ensuite, vous avez un nombre de collaborateurs, dont je fais très modestement partie, qui sont des gens qui vont écrire dans Wikipédia, mais tout le monde peut le faire. Vous n'avez pas besoin de passer un examen, vous pouvez vous mettre demain matin, au bout de 10 minutes, vous allez commencer à changer les pages de Wikipédia. Et donc, il faut évidemment qu'il y ait des contrôles, il faut que tout ça fonctionne. Et pour que tout ça fonctionne, il faut qu'il y ait une gouvernance un petit peu plus structuré, avec des gens qui sont des employés de Wikipédia, avec une fondation qui contrôle tout ça. Donc, c'est une gouvernance. Mais encore une fois, elle est au service, en l'occurrence, des gens qui sont plutôt les éditeurs de Wikipédia. C'est eux qui forment plutôt la masse des gens de la fondation. Mais ce n'est pas fait pour gagner de l'argent. Ce n'est pas fait pour optimiser les profits de certains. C'est fait pour faire le service le plus parfait, offrir l'encyclopédie de la meilleure qualité possible. Et là, il y a déjà une petite nuance un petit peu, c'est que vous avez d'un côté la communauté des gens qui écrivent, et puis, qui est importante, mais quand même plus limitée, que la communauté des utilisateurs. En l'occurrence, c'est plutôt la communauté des gens qui écrivent qui est importante pour la vie de l'encyclopédie. Parce que si ça a d'écrire, ces gens-là, c'est fini. Il n'y a plus de Wikipédia, d'accord ? Donc, d'une certaine façon, dans un commun, les producteurs sont vraiment la valeur, la ressource principale, c'est les gens qui contribuent, les contributeurs. Et d'une certaine façon, les contributeurs de Wikipédia sont essentiels. Et leur bonheur, leur plaisir, c'est ça qui va déterminer si l'encyclopédie va continuer à fonctionner ou pas.
Alors, au collège, nos professeurs nous disaient toujours n'allez surtout pas sur Wikipédia pour préparer vos exposés. Certaines informations sont parfois approximatives. Oui, on peut trouver de fausses informations, mais tout de même, Wikipédia est devenu un canal d'information sur lequel on se repose beaucoup et il y a une raison derrière. Sur ce genre de site, c'est fondamentalement le principe d'intelligence collective qui fonctionne. Est-ce que vous pourriez définir, expliquer ce principe-là ?
Alors, c'est intéressant parce qu'au début, quand Wikipédia est arrivé, les gens ont dit « Non, mais ça ne peut pas fonctionner, ce sera plein d'erreurs, n'importe qui peut écrire et ça va être bourré d'erreurs. » Il y a des gens qui ont fait des études, il n'y a pas plus d'erreurs que dans une encyclopédie classique, et puis le cadre est gigantesque, beaucoup plus grand que dans une encyclopédie classique. Vous pouvez trouver des sujets très mineurs qui sont quand même traités. Donc, c'est de bonne qualité. Alors, c'est de bonne qualité exactement pour ce que vous avez dit, c'est-à-dire l'intelligence collective. Les gens, collectivement, contribuent, se vérifient. Il y a un peu aussi une religion dans Wikipédia, c'est de citer les sources. C'est-à-dire, il ne suffit pas de dire, je ne sais pas, une base de données relationnelle, c'est ça, ça et ça. Il faut citer d'où vous tenez votre source. Et le fait d'être un expert, j'ai appris ça un peu à la manière dure, c'est que je suis arrivé là-dedans la première fois en disant « Non, mais il y a des erreurs, je vais corriger. » J'ai corrigé et je me suis fait rentrer dedans. Et alors, dire « Mais je suis un expert, je suis professeur, je connais tout ça », ça ne sert à rien. Par contre, vous dites « D'ailleurs, tout ça est dans un livre. » Que le livre soit de vous ou pas, ça compte pas. Mais c'est dans un livre et c'est expliqué dans le livre. Et c'est pour ça que je le dis. On croit vos sources. Donc, il y a une vraie religion, et c'est important. À l'époque des fake news, et où le web est plein de trucs qui racontent n'importe quoi, dans Wikipédia, il peut y avoir des erreurs, et il y en a. Mais s'il y en a, les gens collectivement essayent de les corriger. Et à chaque fois, quand il y a un doute, il faut appuyer votre point de vue sur des sources.
Il y a les sources et donc la puissance du nombre qui est au fondement de cette intelligence collective. Il y a des lois statistiques au cœur de ce principe-là, le théorème du jury de Condorcet, par exemple, ou alors le miracle de l'agrégation. En fait, plus on augmente le nombre de personnes qui vont participer, plus on va obtenir une meilleure précision. C'est comme ça que fonctionne Wikipédia, si on peut résumer.
C'est comme ça que fonctionne Wikipédia. C'est pour ça que le logiciel libre fonctionne bien. C'est-à-dire que vous avez demandé à une équipe d'ingénieurs, d'informaticiens dans une start-up ou une boîte même développée, des gens qui sont très brillants, ils vont écrire un logiciel. Ils vont l'écrire, il y a peut-être des fautes dedans, même s'ils sont brillants. Vous allez faire la même chose en open source ou en logiciel libre. Vous allez avoir peut-être le même nombre de personnes qui vont écrire le logiciel. Il y aura peut-être des erreurs, il y en aura peut-être plus parce qu'ils sont peut-être moins forts, j'en sais rien, c'est pas important. Parce que d'autres gens vont aller regarder le logiciel, d'autres gens vont l'utiliser, d'autres gens vont le tester. Et petit à petit, la foule, la masse de gens qui vont utiliser ce logiciel vont arriver à le débugger, comme on dit, c'est-à-dire enlever toutes les erreurs. Alors, il ne suffit pas de dire parce que c'est un open source, il n'y aura pas d'erreur. Non, c'est-à-dire qu'au moment où on met l'open source, il y a probablement autant d'erreurs, peut-être plus que si c'est un logiciel propriétaire. Mais à partir du moment où il y a une collectivité qui, ensemble, le vérifie, le teste, l'utilise, eh bien, petit à petit, ils vont enlever les erreurs et puis le logiciel va devenir de meilleure en meilleure qualité. Aujourd'hui, Internet fonctionne massivement avec du logiciel libre. L'IA dont on parle beaucoup, c'est beaucoup de logiciels libres.
Aujourd'hui, le succès de Wikipédia est tel que l'encyclopédie a remplacé d'autres encyclopédies, d'autres ressources payantes en ligne. Vous citez l'encyclopédie Britannica, par exemple. En France, on pourrait dire que Universalis aussi a été un petit peu mis de côté à cause de Wikipédia.
Oui, et c'est quelque chose à laquelle on assiste. Hein, c'est que quand vous arrivez avec une nouvelle ressource qui soit en commun, que vous mettiez en commun, bah, les ressources privés vont essayer de se défendre, vont essayer de lui faire la peau. Et puis, on peut arriver à plusieurs situations. Ben, dans le cas de l'encyclopédie, la qualité et l'idée de l'encyclopédie Wikipédia a tellement été le rouleau compresseur, les autres ont disparu. Il y a d'autres cas où ça, par exemple, dans les cas de logiciels, où ça peut coexister. Pour les bases de données, par exemple, vous avez un logiciel qui s'appelle SQL, qui est plus ou moins, et d'autres qui sont en logiciel libre, et puis des logiciels propriétaires. Donc voilà, ça coexiste. Dans certains cas, le logiciel en commun a énormément de mal à s'installer. Vous utilisez probablement un logiciel qui s'appelle Word, de Microsoft, mm-hmm. pour écrire vos textes. Et bien là, ça fait des années qu'il y a des concurrents de Word, comme LibreOffice ou OpenOffice, qui essaient de s'installer. Ils ont beaucoup de mal. Donc, il y a des tensions, il y a des avancées, il y a des reculs. C'est un petit peu une guerre, mais c'est une guerre dans laquelle il peut y avoir des moments où les gens sont du même côté et puis des moments où ils s'affrontent.
Aujourd'hui, n'importe qui peut lancer un commun. Qui est derrière ? Ce sont des militants principalement, des entreprises. Quels sont les acteurs derrière ces communs ?
Alors, principalement, dans la vraie notion de commun, c'est la communauté qui décide de s'emparer d'une ressource et de la faire vivre. Là, c'est le cas d'école. Alors après, il y a des domaines un peu plus particuliers. On n'a pas parlé, par exemple, de l'open data. Là, on part de données publiques. Donc, c'est l'État qui va décider que pour des questions de transparence, de vie publique, plus transparente, pour des questions aussi d'efficacité. Parfois, l'État va décider de prendre ces données et de les mettre en accès ouvert. C'est pas un commun. Donc, vous insistiez tout à l'heure sur CEPARES, qui est commun. C'est pas un commun parce qu'il n'y a pas encore véritablement de communauté. On peut parler de la communauté des utilisateurs, mais il n'y a pas véritablement de gouvernance. C'est l'État qui possède ces données. Dans certains cas, ça suffit bien. La liste de toutes les entreprises, il n'y a pas besoin que ce soit autre chose que ça. C'est l'État qui la maintient, c'est l'État qui la gère. C'est de l'open data. Et puis, dans certains cas, on peut dire, mais ce qu'on aimerait bien, c'est que ces données, on crée une communauté autour, qu'on arrive à les ouvrir beaucoup plus, que des gens s'en emparent, que des gens décident de les améliorer. Et là, on est dans le passage vers un commun. Donc, par exemple, l'IGN fait beaucoup de travaux autour de ça pour que les données de l'IGN deviennent, en travaillant avec OpenStreetMap, par exemple, ça approche de cette notion de commun où on retrouve alors là des utilisateurs qui sont des gens comme vous et moi, l'État, des entreprises, tout ça essayant de travailler autour de la même ressource.
L'IGN, vous pourriez juste dérouler l'acronyme.
Alors, l'Institut Géographique National, qui est une très, très belle maison, une vieille maison, qui, pendant très longtemps, gardait ses données fermées, gardait dans son coin, c'est eux qui vendaient des cartes. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait déjà payé une première fois parce que c'était, on payait l'État qui construisait la carte. Et puis, quand on a acheté une carte, on payait une deuxième fois. Ben maintenant, l'IGN met ses données à disposition de la communauté et en fait des communs.
Alors justement, la communauté, un mot sur le profil des contributeurs, c'est-à-dire les personnes qui alimentent tous ces communs. Vous expliquez dans ce livre qu'il y a un important biais de genre dans la communauté. Par exemple, il y a seulement 13% de contributeurs femmes sur Wikipédia, moins de 10% sur OpenStreetMap. C'est encore pire sur les logiciels libres. Ce sont des hommes principalement qui mettent à disposition toutes ces ressources.
Je sais pas, à part pleurer, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Non, c'est souvent vrai. Il y a aucune raison. Il y a aucune raison pour que ce soit particulièrement des hommes. Il se trouve que les femmes ont quand même été beaucoup exclues du monde numérique et de l'informatique en général depuis une trentaine d'années, alors qu'elles étaient beaucoup plus présentes au début. Donc, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. C'est quelque chose qui n'est pas vrai dans tous les pays. Il y a des pays où, par exemple, il y a dans les écoles d'informatique, vous avez 50% d'hommes, 50% de femmes. En France, c'est massivement des garçons. Donc, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'en France, on se pose vraiment des questions et qu'on corrige. Après ça, le fait que le monde de Wikipédia et des logiciels libres d'OpenStreetMap soit plutôt masculin, à part le regretter, je ne sais pas trop l'expliquer.
En tout cas, vous vous présentez, Serge Habitboul, comme les autres auteurs du livre d'ailleurs, comme un militant des communs numériques. Ce n'est pas pour rien que vous avez appelé ce livre « Vive les communs numériques ». Les communs, selon vous, il faut les voir un peu comme des accélérateurs de démocratie. Aujourd'hui, on n'en a plus jamais besoin avec tous les défis qui nous attendent. Alors, vous citez le défi écologique, sanitaire, démographique. Les communs sont devenus indispensables aujourd'hui.
Alors, c'est un point de vue, comme vous dites, c'est un peu militant. Je regarde la situation. Je regarde la situation et je vois un outil, les communs numériques, qui, à la fois, favorise tout ce qui est échange, partage, tout le côté, d'une certaine façon, humaniste que j'aime bien, je dois le reconnaître, et de l'autre côté, démontre une énorme efficacité. C'est-à-dire, on pourrait dire, c'est juste de l'humanisme, il vaut mieux regarder la performance, et les entreprises doivent être performantes, et si l'industrie est plus performante, on y arrivera mieux, etc. Oui, mais sauf que ça se trouve aussi être quelque chose qui a un côté hyper performant. Donc, j'ai un outil qui est les communs numériques. J'ai quelque chose qui permet d'être beaucoup plus performant. Il y a quelque chose aussi dans le numérique essentiel, dans ce cadre-là, qui est le fait qu'on puisse organiser des communautés. Parce que la difficulté de tout ça, c'est aussi d'organiser cette communauté. Vous avez une communauté de gens qui veulent faire des choses ensemble. Quand c'était autant avant, il fallait que ces gens se réunissent au café du commerce ou une fois de temps en temps par an pour un conseil suprême, etc. Et c'était un peu lourd. Donc, d'une certaine façon, ils se sont fait laminer par des formes beaucoup plus efficaces qui étaient la propriété privée et la propriété publique. Là, aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ça. C'est-à-dire qu'on peut organiser une communauté de milliers, centaines de milliers de personnes, voire de millions de personnes, de façon hyper efficace avec le numérique. Une encyclopédie comme Wikipédia n'est concevable que parce que vous avez le numérique, que parce qu'il y a un logiciel qui permet à tous ces gens-là de coopérer. Au XVIIIe siècle, au moment où l'encyclopédie a été inventée, Peut-être que D'Alembert aurait aimé que cette encyclopédie soit collective, que ce soit les connaissances collectives de toute la population qu'il a créée, mais il n'était juste pas possible de le faire, parce que la façon de fonctionner ne permettait pas ça. Aujourd'hui, on peut le faire. Donc il faut essayer de, encore une fois, pas forcément dire que ça va être la panacée à tout, hein, ça ne va pas résoudre tous les problèmes, mais il faut essayer de regarder où cette approche qui permet une grande efficacité et d'une certaine façon du partage qui va être plus économe, plus sobre, au moment où on nous demande d'être plus sobre énergétiquement par exemple, et bien peut-être qu'il faut essayer de regarder quelles sont les solutions qui permettent de le faire.
Dans une très récente interview, l'homme d'affaires Reid Hoffman, qui est le cofondateur de LinkedIn, qui fut un temps proche d'Elon Musk, dans cette interview, il se dit réticent sur les logiciels open source ouverts à tous dans l'intelligence artificielle. Je le cite, « En les ouvrant à tous, on ne les donne pas seulement aux journalistes et aux corps académiques, mais aussi aux États voyous, aux terroristes et aux gens qui veulent attaquer l'écosystème de l'information. » Est-ce bien raisonnable d'ouvrir les vannes absolument partout ?
J'ai lu ce même interview et j'ai bugué là-dessus. Je suis totalement en désaccord, mais ce qui est dit est vrai. C'est-à-dire que si on commence à développer des grands modèles de langage et qu'on les met à la disposition de tout le monde, ben on va les mettre aussi à la disposition de gens qui vont essayer de faire des fake news, on va les mettre aussi à la disposition de pays qui sont peut-être hostiles, etc. Donc il a raison là-dessus. Par contre, donc la question c'est est-ce qu'on va ouvrir, est-ce qu'on va continuer à être transparent ou est-ce qu'on va tout fermer ? Alors, ce que je pense, c'est que si on ferme tout, ils auront quand même accès. Ils trouveront quand même des façons d'obtenir l'accès à ces modèles, ils trouveront quand même le moyen de les développer et ça ne les bloquera pas. Par contre, toute cette ouverture va nous permettre de détecter leurs attaques plus facilement, de vérifier plus facilement ce qu'ils sont en train de faire, de plus facilement les bloquer. Ce n'est pas une preuve, mais je vais essayer de vous donner une analogie. L'analogie, c'est la cryptographie.
Donc, Alors
la cryptographie, c'est l'idée de vous voulez envoyer un message de A à B et vous voulez pas que les ennemis puissent s'accaparer le message. Donc c'est de tout temps d'essayer de faire des codes de chiffrement pour chiffrer les messages pour que l'ennemi ne puisse pas l'avoir. Et de tout temps, il était considéré que la bonne façon de faire, c'était non seulement d'avoir une méthode, un algorithme pour chiffrer et déchiffrer, mais que cet algorithme pour chiffrer et déchiffrer, il fallait surtout pas le donner à l'ennemi parce que si on le donnait à l'ennemi, ouh là là, il allait pouvoir s'en servir, il allait pouvoir utiliser cette information pour déchiffrer votre message. C'était ce qu'on croyait. Et puis est arrivée la technique RSA, qui est le chiffrement à clé publique, dans lequel on vous dit, bah voilà, non seulement je vous donne l'algorithme de chiffrement, il est public, c'est un papier, vous allez lire cette référence et vous aurez l'algorithme, mais en plus je donne ma clé de chiffrement, n'importe qui peut m'envoyer un message avec ce chiffrement. Et les gens ont essayé de casser cette méthode, ils ne sont pas arrivés. Et donc maintenant, on sait que si on utilise cette méthode, qui est la plus ouverte possible, puisqu'on sait quelle est la méthode de chiffrement et qu'on sait quelle est la clé publique, et malgré ça, c'est les méthodes qui sont utilisées aujourd'hui pour chiffrer des messages et s'envoyer des messages confidentiels. Tout est public. Donc moi, je crois que cacher les choses n'est pas forcément la bonne façon de faire. La bonne façon de faire, c'est de vérifier de manière transparente que tout se fait proprement.
Aujourd'hui, quelques activistes très connus dans le milieu se battent pour imposer la philosophie des communs. Aaron Schwartz ou encore Alexandra Elbakian, qui milite pour un accès total aux publications scientifiques. Ce sont des personnalités qui ont eu maille à partir avec la justice. L'idéologie de certains activistes des communs numériques n'est pas tout le temps compatible avec ce que dit la loi.
Oui, alors vous avez donné deux noms, merci. C'est bien de garder ces gens en tête. Aaron Schwartz en est mort. Alexandra Elbakian, elle est toujours vivante et en fait, elle s'en sort parce qu'elle est au Kazakhstan. C'est une jeune du Kazakhstan qui a décidé quelque chose d'absolument révolutionnaire, c'est de dire les scientifiques, donc on est à l'Académie des sciences, donc c'est quand même important, les scientifiques doivent avoir accès à tous les résultats de la recherche scientifique. Et comment je fais ça ? Ben maintenant, il y a un truc qui est génial, qui est Internet. Donc tous les articles scientifiques sur lesquels je vais pouvoir mettre la main, je vais les publier. Et d'une certaine façon, elle suit là-dedans une loi qui est une loi de l'Union européenne, qui est les scientifiques doivent avoir accès à tous les résultats de la recherche. Alors, en faisant ça, elle enfreint une autre loi, qui est la loi sur les copyrights. Donc, elle publie des journaux qui sont des journaux qui sont privés, donc elle n'a pas le droit normalement de publier. Donc, si elle va dans un certain nombre de pays, Peut-être même en France, hein, j'en sais rien. En tout cas, si elle va aux États-Unis, elle se retrouve en prison tout de suite. Si en France, c'est possible que ce soit la même chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment une des personnes les plus importantes pour la science du siècle, puisqu'elle donne accès à tout le monde. Vous êtes dans un petit laboratoire au fin fond d'un pays le plus perdu. Vous allez pouvoir faire de la recherche parce que vous avez accès grâce à Alexandra Elbakian et puis évidemment à tous les gens qui se sont mis à aller dans son sillage et faire la même chose qu'elle. Vous avez accès à toute la littérature scientifique, donc vous pouvez faire de la recherche sans avoir aucun frein et pas vous dire « bah oui, ça, ce papier-là, c'est fondamental, j'en ai besoin pour ma recherche. Ah oui, mais c'est dans un journal, j'ai pas accès, c'est trop cher, je peux pas l'avoir. » Donc, je militerai même pour que l'Académie des sciences, la France, suive sur ce mouvement et dire, et c'est pour moi, c'est quelqu'un d'extrêmement important, Alexandra Elbakian.
Et on citait Aaron Swartz aussi il y a quelques instants. Vous disiez qu'il en est mort. Qu'est-ce qui s'est passé exactement?
Alors, j'ai peur de ne pas avoir exactement l'histoire en tête, mais il est allé rechercher plein de papiers de recherche. Il était aux États-Unis, il est allé chercher plein de papiers de recherche. Il les a mis sur Internet, il les a publiés. Alors que pareil, ils étaient protégés par le copyright. Donc, il a fait exactement ce qu'a fait Alexandra Elbakian, plus tôt. Sauf que lui était aux États-Unis. Et que donc, on a commencé à le poursuivre pour violation de la propriété privée. Il a eu des tas d'ennuis avec la justice. Il a fini par se suicider.
Et on peut citer aussi Edward Snowden, qui a divulgué des données ultra confidentielles du gouvernement américain et qui aujourd'hui rencontre pas mal de problèmes avec la justice.
Alors là, c'est un petit peu différent parce que dans le cas de Swartz et de Elbakian, c'est essentiellement des données scientifiques. Donc on imagine que là, il n'y a qu'une loi qui est la recherche scientifique devrait avoir accès à tous les résultats scientifiques. Dans le cas de Snowden, c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est là, on parle de démocratie, d'information publique ou pas. C'est un petit peu le cas est différent.
Aujourd'hui, les communs sont menacés?
Les communs ont toujours été menacés. On a même vu toute une période où ils se sont rétrécis. Il y a une époque où la majorité des terrains étaient communaux. Enfin, c'était comme ça. Le défaut, c'était que le terrain était communal. Et puis, petit à petit, on a vu de plus en plus des gens mettre des barrières et puis dire non, ça, c'est chez moi, etc. Et pour les communs numériques, évidemment, ils sont menacés parce qu'il y a la propriété privée. Et si on ne défend pas les communs numériques, d'une certaine façon, la propriété privée va essayer de gagner du territoire en s'en emparant. Donc, par exemple, Internet, qui est pour moi, vous en avez parlé au tout début, et j'ai beaucoup aimé la phrase que vous avez dit dessus, c'est quelque chose qui était véritablement pensé au début dans un espace de liberté, dans un espace de partage. Aujourd'hui, de plus en plus, on voit des grandes entreprises qui, sans privatiser Internet, font que d'une certaine façon, ils vont essayer de vous garder dans des silos à eux. Alors, on appelle ça des apps sur votre téléphone, des applications. On va essayer de vous garder chez eux. Ils vont essayer de vous mettre dans un terrain grillagé, d'accord ? Et donc là, on est en train de s'écarter du beau rêve du début. Donc oui, c'est quelque chose qui en même temps se développe. Le logiciel libre se développe. La science ouverte, qui pour moi est quelque chose de fantastique, est en train de se développer de façon considérable. L'éducation ouverte se développe, l'open data pour le gouvernement se développe. Donc, on voit des tas de dimensions dans lesquelles ça se développe, mais on voit des dimensions où il y a des résistances dues à la propriété privée. Encore une fois, on n'a pas voulu faire un plaidoyer contre la propriété privée. Hein. On a monté des startups, François Bancillon et moi-même, sur Toubib d'ailleurs. On considère qu'il y a beaucoup de cas où la bonne solution, c'est de développer un logiciel propriétaire et de le vendre, et de vendre des services autour. Donc, ce n'est pas du tout pour dire la seule solution, c'est les communs numériques. Ce qu'on a voulu expliquer, c'est qu'il y avait un espace important dans lequel les communs pouvaient se développer.
On a beaucoup parlé d'Américains depuis le début de l'interview, du monde occidental, mais qu'en est-il de la Chine et de la Russie? Est-ce que ce sont des pays adeptes des communs numériques également?
Alors ça, c'est ce qu'on sait. Enfin, moi, ce que je ne savais pas trop au début, et on a un peu étudié pour essayer de comprendre, et la réponse, c'est que oui, notamment les logiciels libres, mais aussi l'open data, contrairement un peu à ce qu'on pourrait croire. L'open data se développe en Chine. Alors, évidemment, on connaît bien la chape du gouvernement chinois, mais localement, il y a des initiatives dans les régions, dans les villes, pour développer de l'open data. Alors, sur le logiciel libre, c'est les Chinois, les Russes, mais à peu près partout dans le monde, c'est une application qui... C'est vraiment un domaine qui se développe énormément. Alors, c'est une réponse aussi au fait que vous avez des logiciels propriétaires qui coûtent très cher et qui coûtent très cher aussi à des pays qui n'ont pas forcément énormément d'argent. Il y a des logiciels propriétaires qui peuvent vous être fermés du jour au lendemain si vous ne faites pas plaisir au gouvernement qui les développe, enfin au pays d'où ils viennent, typiquement les États-Unis. Donc il y a une solution à ça, c'est de développer des logiciels libres. En Russie, honnêtement, ce qui s'est passé pendant très longtemps, c'est que la Russie piratait des logiciels américains. Du temps de l'URSS, on piratait les logiciels américains. Bon, maintenant, on n'est plus à l'URSS, la Russie ne pirate plus les logiciels américains, ou la pirate peut-être moins, mais une façon beaucoup plus légale et beaucoup plus propre de faire, c'est de dire, nous, on veut utiliser plutôt des logiciels libres. Et on va développer des logiciels open source, on va dire. On va participer au développement des logiciels open source. La Chine est extrêmement forte sur le développement des logiciels open source.
Et aujourd'hui, comment, ça sera ma dernière question, comment protège-t-on, comment préserver les communs numériques?
Il y a une diversité absolument considérable sur les communs. Diversité de qu'est-ce que vous mettez en commun, diversité de quelle est la gouvernance, diversité sur la communauté. Il y a des communautés toutes petites, des communautés très grandes, des communautés très libertaires, des communautés beaucoup plus industrielles. Donc, le paysage est extrêmement varié et la situation varie énormément d'un domaine à l'autre. L'éducation ouverte, ce n'est pas du tout la même chose que, je ne sais pas moi, l'agriculture ou les logiciels libres dans l'agriculture. Donc, il y a énormément de variétés et donc je pense que les réponses à votre question peuvent dépendre de ces différents domaines et ces différentes situations. Je pense quand même l'essentiel, c'est quand même la vigueur, la passion de la communauté. C'est-à-dire que quand une communauté se porte bien, que les gens sont dynamiques, la communauté avance, le commun avance. Donc je pense que c'est d'abord une histoire de communauté. Mais après, il peut y avoir aussi, comme dans tout, il peut y avoir des contextes plus ou moins favorables. Je pense que la loi est quelque chose d'assez important. Je pense que, par exemple, la loi favorise beaucoup trop la propriété privée ou le public et que la zone grise des communs mériterait d'être beaucoup mieux défendue dans la loi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'une certaine façon, vous n'êtes pas assez protégé quand vous développez un commun et on peut venir vous piller, alors le plus souvent, du côté de la propriété privée. Donc, des lois pour mieux protéger.
En France et aux États-Unis
France, aux États-Unis, partout. En gros, les lois sont très souvent faites pour protéger la propriété privée. D'une certaine façon, c'était bien au début, parce que la propriété privée, c'était aussi quelque chose qui vous protégeait de l'arbitraire royal, de l'arbitraire des princes. Donc, la loi venait vous protéger, d'une certaine façon, protéger votre propriété. C'est-à-dire que le prince n'avait pas le droit de se pointer chez vous, et puis le droit de cuissage a disparu à un certain moment. C'est parce qu'il y avait cette propriété passée du prince à l'individu. Et puis, à un certain moment, la femme était libérée, il n'a plus le droit de cuissage. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait des lois qui soient mieux organisées pour protéger ces communs. Et puis après, il peut y avoir aussi la commande publique, par exemple, dans le logiciel libre. L'État peut décider, comme l'éducation nationale le fait beaucoup en ce moment, de plutôt que d'acheter des logiciels propriétaires, d'encourager le développement de logiciels libres.
Merci beaucoup, Serge Avidboul. J'espère que les communs n'auront presque plus de secrets pour les auditeurs. Pour en savoir plus, je rappelle le titre du livre « Vive les communs numériques » que vous avez coécrit avec François Bansilon, avec une préface de Gérard Berry. Et c'est une véritable bible, si vous voulez tout savoir sur les communs numériques. Et c'est aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Canal Académie.